Frédéric Vollery.
Le Haut du Val-de-Bagne est à nouveau coupé du monde. Une lave torrentielle a emporté ce matin le pont du Frégnolet qui permet de rejoindre la commune de Lourtier. Le pont était un ouvrage provisoire construit en septembre suite aux intempéries de juillet dernier. La population est priée de rester à domicile, les enfants scolarisés aussi. Il est également demandé de ne pas se rendre aux abords du torrent du Frégnolet. L'Organisation météorologique mondiale établit un lien clair entre l'éboulement qui a ravagé Blatten la semaine dernière et le changement climatique. C'est un avertissement puissant de notre monde qui se réchauffe, a déclaré ce matin sa secrétaire générale. La réunion d'aujourd'hui de l'OMM précède l'ouverture officielle de la plateforme mondiale pour la réduction des menaces liées aux désastres naturels. Le conseiller fédéral Ignacio Cassis sera demain à Genève pour cette rencontre qui doit durer jusqu'à vendredi. La masse de glace et de roche à Blatten atteint plus de 100 mètres de haut par endroit, selon une estimation faite par Raphaël Majora, chef du service des dangers naturels du canton du Valais. Il précise qu'aucune fissure ou effondrement important de cet amas de débris n'ont été constatés jusqu'à présent, mais cela peut changer si la glace commence à fondre. Le taux hypothécaire de référence demeure inchangé à 1,5%, annonce ce matin l'Office fédéral du logement. Le taux avait été raboté d'un quart de point début mars, ouvrant alors la porte à des demandes de réduction de loyer par les locataires à compter du mois de juillet. Les locataires ne pourront ainsi pas aller au-delà de cette demande de baisse de loyer. Dans le canton de Neuchâtel, le Parti socialiste de Val-de-Ruz retire son initiative intitulée « Corriger les lacunes des transports publics » après l'adoption d'un contre-projet par le Conseil général début mai. Les initiants relèvent que leur texte a été le déclencheur de mesures d'amélioration et de renforcement des contacts entre le canton et la commune, avec notamment la mise sur pied d'un groupe de travail pour la création d'une ligne de transport public entre Val-de-Ruz et Saint-Imier dans le canton de Berne. Florian Villette, le promoteur de la capsule de suicide assisté Sarco et président de The Last Resort, est décédé. Une annonce faite sur le site internet de l'organisation suisse d'aide au suicide. Selon le Tagesanzeiger, l'avocat de 47 ans aurait mis fin à ses jours. Suite à la première utilisation en Suisse de Sarco en septembre dernier, il avait été placé en détention provisoire puis libéré. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky espère une coopération fructueuse avec le président polonais fraîchement élu Karol Nawrocki. Le candidat nationaliste est pourtant critique des plans d'adhésion de Kiev à l'Union européenne et à l'OTAN. Nawrocki remporte l'élection présidentielle avec près de 51% des voix. La société de construction Implenia va participer aux travaux de construction d'une ligne de RER au centre-ville de Francfort en Allemagne pour un montant des travaux évalué à près de 187 millions de francs. Le contrat prévoit qu'Implenia creuse plusieurs puits de construction ainsi que deux tunnels d'une longueur de plus de 1 km. La météo, le ciel sera le plus souvent nuageux en ce lundi. Des nuages accompagnés de fréquentes précipitations, parfois orageuses, avec un risque d'importants cumuls de pluie par endroits. Des éclaircies sont tout de même attendues à la mi-journée. Le mercure grimpera jusqu'à 20 degrés cet après-midi en pleine.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
C'est l'un des opéras les plus joués au monde. L'histoire tragique d'un amour impossible entre une courtisane et un jeune bourgeois. Du 14 au 27 juin, la Traviata de Giuseppe Verdi se joue au Grand Théâtre de Genève. Découvrez cette partition iconique, mise en scène par Karin Henkel, le samedi 28 juin sur RTS Espace 2 et sur l'application Play RTS. Tribu, Jérôme Timmerman.
À quoi
quoi sert l'imagination? C'est une question légitime à l'heure où notre société ne laisse guère de place à la flânerie de l'esprit. On est occupé en permanence par des écrans, des réseaux sociaux, des emails, des notifications, des vidéos, des charges, des préoccupations en tout genre. Tout est disponible, y compris la connaissance, à la portée d'un simple clic. Alors est-ce qu'on laisse encore suffisamment notre pensée vaguer à des hypothèses, à des histoires? Eh bien, si vous cherchez une motivation à le faire, vous allez sans doute la trouver ce matin avec notre invitée, Laura El-Maki. Bonjour.
Bonjour Jérôme.
Bienvenue dans Tribu, vous êtes journaliste, professeur à Sciences Po à Paris et vous êtes l'autrice de Petit éloge de l'imagination aux éditions Les Pérégrines. J'ai cessé d'imaginer un jour. D'ailleurs, vous commencez le livre par cette phrase. Qu'est-ce qui s'est passé, Laura El-Maki?
Alors, c'est une bonne question parce que je sais que c'est arrivé, mais je ne sais pas comment, par quels moyens. Et c'est ça le drame, en fait. C'est de se rendre compte que ce qui était très naturel, très spontané, quasiment un réflexe quand on était enfant, d'imaginer tout le temps, de se demander quelle sera notre vie, mais que font les adultes, mais ça, à quoi ça sert, et puis qu'est-ce qu'on viendra, et puis qu'est-ce que c'est la mort. De se rendre compte que toutes ces questions-là, c'est pas qu'elles ont disparu, mais c'est qu'on a, j'ai été prise, je pense, dans un tourbillon d'obligations dans la vie adulte, active, qui m'a ôté, si vous voulez, cet espace où je m'interrogeais, où en tout cas j'essayais de questionner mon environnement, je questionnais souvent qui j'étais, et puis j'essayais d'imaginer ce qui n'était pas sous mes yeux. Et c'est vrai que c'est un trou noir. Et je commence ce livre de cette manière parce que c'est aussi comme ça que j'ai eu envie de me replonger dans ces états d'imagination que je pensais avoir perdu, mais que j'ai un peu retrouvé, heureusement.
Vous exprimez une forme de nostalgie, hein, parce que cette phrase, vous la poursuivez par « je sais pourtant ce que je dois à l'imagination », c'est-à-dire, Laura El-Maki. Qu'est-ce que vous lui devez?
C'est vrai que j'ai cette phrase, cette formule de n'avoir pas péri 1000 fois ou moins. Alors c'est une formule assez excessive et je crois sincèrement avoir souvent ressenti le découragement face au réel, cette impression de ne plus savoir comment faire. Et chacun a ses méthodes pour retrouver le courage. La mienne, ça a été longtemps d'imaginer, c'est-à-dire de me couper de ce réel trop douloureux et d'essayer de voir peut-être ce que je pouvais lui opposer. Quand j'étais enfant, c'était un jeu. Parce qu'il fallait combler l'ennui, le temps vide, l'attente. Et puis j'ai aussi grandi à une époque, et je me rends compte que j'ai été très chanceuse, où effectivement j'avais du temps pour m'ennuyer beaucoup. Tout ce que vous évoquiez en introduction, les réseaux sociaux, les sollicitations permanentes, j'avais pas ça en fait. J'avais la télé, mais encore, mes parents faisaient très attention à ce que je les regarde pas trop. Donc j'avais beaucoup de temps pour m'ennuyer, j'en étais pas très heureuse, et en même temps ça me laissait le loisir de faire ce que je veux et de me raconter les histoires que je voulais. Donc je pense que oui, je dois à l'imagination de m'avoir montré déjà le chemin de l'évasion et peut-être celui du courage, oui. Je lui dois aussi d'avoir compris que je pouvais, je pense, m'absenter du monde, que j'en avais le droit et que c'était pas si grave en fait.
Il y a un constat, Laura El-Maki, que vous dressez dans le livre, c'est que le réel et l'imaginaire sont opposés selon des... D'ailleurs, vous disiez, hein, faut couper, peut-être se couper d'un réel trop douloureux, ce qu'amenait l'imaginaire pour vous. Mais voilà, il y a les tenants d'une hiérarchie, en fait, vous l'exprimez, qui priorise plutôt le réel, parce que c'est pas de l'ordre du privé, de la petite histoire que serait l'imaginaire. Au lieu de les considérer comme complémentaires, en fait, on oppose réel et imaginaire selon vos constats.
Bah oui, et puis on pardonne pas du tout à ceux qui n'ont pas le sens des réalités, justement. On n'a qu'à prendre, envoyer un élève dans une salle de classe qui regarde par la fenêtre, il est rappelé à l'ordre, alors de son professeur, mais à l'ordre du réel. On punit, je pense, ceux qui n'ont pas les pieds sur terre. Et peut-être à raison, hein, c'est vrai que nos intentions... Les intentions qu'on donne à nos vies, elles sont toutes tendues vers la réussite, la performance, le résultat. Et effectivement, ça nous empêche d'aller de l'autre côté, vers cet endroit qui, en effet, a longtemps existé pour nous, quand on était enfant, et qui s'est peu à peu refermé, qu'on nous a appris à refermer. Et on nous a aussi appris à tracer une ligne assez étanche entre, on va dire, le monde de la vérité, hein, et puis, non pas le monde du mensonge, mais celui des illusions. Vous voyez, celui effectivement où il n'y aurait pas d'enjeu, où il n'y aurait rien à faire. Et je pense qu'on nous prive là, on nous ampute véritablement, bon, déjà d'une faculté extraordinaire qui peut vraiment nous servir au quotidien, et puis d'une manière aussi de compenser un réel, effectivement, parfois difficile, difficile à vivre. Donc voilà, moi, avec ce livre, effectivement, j'essaye de me dire, et si on envisageait l'imagination comme une possibilité, non pas de nier le réel, mais peut-être de le prolonger, de l'augmenter. En tout cas, voilà, j'essaye de marcher sur cette ligne de crête.
Quelles sont les vertus de l'imaginaire? Alors, vous avez déjà un peu répondu à cela. Hein. Par exemple, ça peut servir à se couper d'un réel qu'on n'aime pas, parfois douloureux, ça peut soulager. Il y a aussi du bon usage de l'imagination, parce qu'on peut aussi se laisser glisser vers des aspects négatifs avec l'imaginaire, Laura El Maki.
Oui, c'est vrai. Alors, je le traite pas dans ce petit éloge, parce que par principe, un éloge est là pour montrer quand même le côté positif de la chose. Mais je me suis rendu compte en écrivant, et je le signifie un tout petit peu dans mon introduction, qu'il y a évidemment des mauvaises manières d'imaginer. Et on le voit tous les jours, les fake news, les manières qu'on a de se persuader d'autres vérités. Je lisais ce matin Trump qui a retweeté un message disant que Joe Biden n'était plus de ce monde depuis des années. Qu'il était, c'était un clone en fait qu'on avait en face de nous depuis longtemps. Je me dis, voilà, ces choses-là sont publiques, tout le monde les lit. Oui, il faut faire bon usage de son imagination, et c'est difficile parce qu'il faut bien la nourrir en fait. C'est comme un corps et c'est comme l'alimentation qu'on lui donne chaque jour. Comment bien se nourrir, comment bien imaginer, c'est un défi, je pense, que nous avons tous en main et qu'il faut relever. Et alors moi, je le fais à travers les livres, par exemple, et c'est pour ça que ce petit éloge existe aussi, c'est que je pense qu'il est le résultat de mes lectures, de la manière dont j'ai essayé d'apprendre à rêver avec des écrivains qui m'ont beaucoup inspiré, mais ça peut se faire évidemment d'autres manières.
Ça peut se faire d'autres manières, mais donc oui, vous venez de le dire, vous agrégez en fait des autrices, des auteurs dans l'optique, dans une optique particulière, ils entrent en résonance avec vous, Laura El Maki. Pour définir en fait l'imagination, à un moment vous invoquez Proust qui lui distingue trois imaginations. On entre un peu dans les définitions. Qu'est-ce que vous avez pu retenir de ce que Proust a écrit à propos de sa définition de l'imagination, des imaginations plutôt?
Alors c'est intéressant, c'est comme si on commençait un peu par la fin, c'est-à-dire que moi, Proust, j'ai compris l'imagination avec lui, non pas que je comprenais pas ce que c'était avant, mais il m'a ouvert des portes, des choses très contre-intuitives que j'aurais pas pu imaginer toute seule. Quand on a affaire à Proust, on a l'impression qu'on a affaire à des choses difficiles, mais ce qu'il montre est assez simple en fait. Il fait toute une distinction entre l'imagination en gros qui consiste à rêver le réel et ses possibilités, et puis l'imagination qui nous amène peut-être à retrouver, à avoir accès à une part de nous-mêmes. Alors je vous donne un exemple, il met par exemple en avant ce qu'il appelle les folles idées. Les folles idées, c'est par exemple parfois se prendre à rêver d'être un héros ou de rencontrer son idole. Alors je le dis, je le raconte dans mon petit éloge que pendant très longtemps, très jeune adolescente, j'ai cru qu'il était tout à fait possible que je rencontre Leonardo DiCaprio en bas de chez moi. Et je l'imaginais, je me disais mais tiens, comment je pourrais réagir, qu'est-ce que je lui dirais, etc. Bon, ça ce sont les folles idées, ce sont des choses a priori qui n'arriveront pas. Et puis il y a l'imagination qui pour lui peut être déceptive, c'est-à-dire qu'à force de trop anticiper des événements qui vont arriver, par exemple un dîner, une rencontre amoureuse, un entretien d'embauche, que sais-je, on se prend, quand cet événement arrive, à être déçu, parce qu'on trouve le réel tout d'un coup un peu amer et médiocre. Et puis il y a cette troisième imagination qui est là et vraiment est très intéressante, et c'est celle-ci qui est contre-intuitive. Elle n'est pas tournée vers le futur, elle est au contraire tournée vers le passé, et c'est cette imagination qui est liée notamment à l'épisode de la Madeleine. Alors même si on n'a pas lu Proust, je pense que on sait de quoi il retourne. C'est le narrateur qui mange un morceau de madeleine trempé dans une cuillère à thé donnée par sa tante, et dès lors que ça touche son palais, tout le passé ressurgit, Combray, ses vacances d'enfant, l'odeur des aubépines, le bonheur d'être à tel endroit, et ça, cette faculté qu'on a de pouvoir reconstruire quelque chose qu'on pensait avoir perdu juste à partir de sensations et d'images, ça c'est quelque chose de proprement humain, et ça s'appelle l'imagination. Donc Proust nous montre qu'on a entre les mains un super pouvoir, en fait.
Il y a vraiment de très nombreuses références littéraires le petit éloge de l'imagination. Mais selon vous, Laura Elmaki, l'un des plus beaux livres sur l'imagination a été écrit par un romancier en plus réaliste, Gustave Flaubert, avec son héroïne Emma Bovary.
Ah bah oui, mais c'est vrai que c'est un livre qui a le goût de ces romans qu'on n'ose plus ouvrir parce qu'ils nous rappellent des heures laborieuses de collège, de lycée, où on faisait connaissance justement avec les classiques, ces livres qu'on doit lire et qu'on ne veut pas lire. Mais c'est tout le problème, c'est là qu'on passe à côté de certaines histoires décisives. Et puis Emma Bovary, elle est coiffée depuis longtemps d'un parfum de ridicule. Hein. Elle fait un peu de la peine quand on pense à elle. On se dit pas que c'est un personnage fort, que c'est une grande héroïne. Alors que si, cette femme qui se suicide à la fin, pardon, je spoil la fin du roman. Paradoxalement, elle a un immense goût pour la vie. Mais elle est piégée. Elle est piégée dans un réel qui ne lui va pas. Et en cela, je pense que son destin peut parler à beaucoup de monde. Parce que ça évoque, d'une certaine manière, énormément la condition féminine encore actuelle. Cette espèce de rêve de stabilité, le schéma marital et maternel. Toutes les cases qu'une femme doit cocher pour avoir l'impression d'avoir réussi sa vie, alors que peut-être elle passe à côté. Effectivement, Emma Bovary, pour moi, c'est une héroïne qui s'efforce de croire en des jours meilleurs et qui imagine tout le temps. C'est vraiment son passe-temps favori. Et la plume de Flaubert nous montre très bien l'attente, l'envie, le projet et surtout ce que je dis, c'est-à-dire le courage du rêve. Il décrit une femme qui se révolte silencieusement par l'imagination et qui ose rêver d'autres choses. Et en ça, je trouve que c'est une grande héroïne parce que elle essaye de donner un sens à sa vie. Elle pourrait ne pas le faire, mais elle le fait. Et on voit tout au long de ce roman se déployer toutes les possibilités de l'imagination, bon, qui mènent à cet acte terrible parce qu'elle décide de sauter la vie. Mais elle a essayé avant de trouver d'autres chemins.
Et vous rappelez un peu de contexte, hein. L'accueil public a été plutôt extrêmement premier degré, on a condamné en fait ce personnage, on a plutôt parlé de névrose, alors à nouveau premier degré, deuxième degré, l'analyse qu'on fait actuellement est plus facile a posteriori qu'à l'époque.
Ah bah oui, bien sûr. Mais à l'époque déjà, on a beaucoup reproché à Flaubert d'avoir traité ce sujet. Pour qui se prenait-il de parler, de décrire comme ça la vie quasiment intérieure d'une femme, effectivement, qui s'ennuie chez elle, qui se marie, et puis qui désobéit à tout ce pourquoi elle a signé, c'est-à-dire qu'elle entretient des relations adultères, elle essaye désespérément d'éprouver ce qu'elle a lu dans les livres, justement ce que les livres lui ont fait imaginer. Donc c'est un livre, alors moi c'est vrai que j'ai peut-être une lecture très optimiste de ce livre, mais c'est vrai que c'est aussi un livre dramatique parce que c'est aussi une héroïne qui veut absolument coller à l'image des héroïnes qu'elle a pu rencontrer dans les livres. Et c'est peut-être là son drame, de ne pas comprendre que l'imagination peut aussi nous perdre. Et je pense que là, elle d'une certaine manière, effectivement Emma Bovary se perd dans ses rêves. Mais effectivement, elle est très moderne dans ce qu'elle propose aux femmes de faire.
Vous écoutez Tribu sur RTS Première. Laura Elmaki est notre invitée jusqu'à 11h30, journaliste, professeure à Sciences Po à Paris, autrice du Petit Éloge de l'Imagination aux éditions Les Pérégrines. Alors on va poursuivre cette exploration sur l'imagination dans un instant, par exemple celle des enfants, si on a le temps on parlera peut-être aussi des récits d'anticipation, d'heroic fantasy. On va écouter juste avant The Cranberries, Just My Imagination, et évidemment que j'allais crocher sur un terme en anglais, Just My Imagination, The Cranberries. Proposition de Bastien Arnold à la programmation musicale. À tout de suite. 21, on est de retour dans Tribu sur RTS Première avec Laura Elmaki, autrice du Petit Éloge de l'Imagination aux éditions Les Pérégrines. Laura Elmaki, à propos d'imagination, vous relevez une phrase qui connote négativement l'imagination, qu'on a toutes et tous dû entendre plein de fois, c'est la question « Mais qu'est-ce que tu t'imagines ?» Question qui n'attend pas de réponse. En fait, c'est plutôt une expression hein, pour appuyer encore une fois que c'est pas conforme à la réalité, qu'on sort beaucoup aux enfants. Et pourtant, l'imagination, vous l'indiquez également, elle est valorisée chez les enfants en bas âge. Et puis à un moment, c'est plus le cas. Puis on commence à leur sortir cette phrase « Qu'est-ce que tu t'imagines ?» Comment expliquer ce basculement ?
Alors là encore, je pense qu'il faudrait que je mène une enquête, mais c'est le travail de toute une vie. Et c'est vrai que cette phrase, je l'ai beaucoup entendue dans la bouche de mes parents. Et je leur en veux pas parce que moi, étant mère aujourd'hui, il m'arrive peut-être aussi de la prononcer. Mais c'est intéressant parce que ça montre bien la fracture aussi qu'il existe entre ces deux mondes, celui de l'enfance et des adultes. Les enfants, ils s'imaginent tout. Donc c'est pas une question qui leur parle en fait. Et c'est vrai que j'ai voulu faire ce chapitre pour montrer ce que cette question provoquait en moi à cet âge, c'est-à-dire peut-être avant mes 7-8 ans. Et c'est vrai qu'il y a un moment où les adultes vous regardent et trouvent que l'imagination n'a plus lieu d'être. Et ce qu'on valorise davantage, c'est le raisonnement, la réflexion, les bonnes notes, évidemment. Mmh. Alors qu'avant, l'imagination était mise en lumière, mise en valeur, et puis on nous prenait comme modèle. Regardez, mon fils ou ma fille a beaucoup d'imagination, il a créé ça, il a fait ça tout seul. Je pense que ce basculement, il arrive déjà avec l'école. Je pense que l'école nous apprend, même si au départ on fait beaucoup de choses, hein, en maternelle, en l'école primaire, peu à peu on nous apprend à rentrer dans des méthodes, à apprendre des leçons, et puis très vite, moi je me souviens très bien, on me déconseillait au brevet ou au bac de prendre l'exercice d'imagination. On me conseillait plutôt de prendre le commentaire ou la dissertation. Vous voyez, c'est dire aussi ce qu'on intime aux adolescents. Surtout, ne faites pas forcément confiance à cette force incroyable qu'est l'imagination, mais allez choisir un auteur pour le commenter, pour l'analyser. Ce qui est très bien aussi, parce qu'il faut savoir le faire. Et pour avoir fait des études de lettres assez poussées, je sais que ça aide à comprendre aussi après beaucoup de choses de l'histoire littéraire, des textes, de la littérature. Surtout quand on veut s'orienter dans ce domaine-là. Mais très vite, on encourage aussi les enfants à abandonner ce travail de l'imagination qu'ils peuvent faire assez naturellement, et c'est dommage. Donc je le regrette, et c'est vrai que maintenant, après avoir écrit ce chapitre, et je me suis rendu compte, ça m'a ouvert un peu comme Proust tout un continent oublié. Je fais beaucoup plus attention à ce que je dis à mon fils. En tout cas, j'essaye d'aller dans son sens et de ne pas trop le brusquer avec ma manière de le ramener tout le temps au réel.
C'est vrai que c'est un basculement évidemment qu'il peut correspondre à une forme de perte de l'innocence. On oublie progressivement le Père Noël, le lapin de Pâques, la petite souris, etc. J'enchaîne juste avec autre chose que vous expliquez à propos de l'imagination, c'est aussi le monde du dedans. Vous citez en exemple d'ailleurs les sœurs Brontë, chez qui l'imaginaire, vous l'expliquez, c'est un royaume, un domaine qu'on façonne ou un refuge.
Ça a été tout ça pour elles, effectivement, et elles ont très bien compris que c'était comme une bulle, en fait, dans laquelle elles pouvaient exister à un certain moment de la journée ou plutôt de la nuit, parce qu'elles imaginaient beaucoup la nuit avant d'aller dormir. Elles se réunissaient autour de la table du salon, puis elles écrivaient ensemble. Elles apprenaient à se raconter des histoires, à écrire. Et c'est vrai que cette fratrie, cette sororie d'écrivains, elle est rare et précieuse, parce qu'elles sont toutes passées à la postérité, et puis elles nous ont fourni des histoires extraordinaires. Elles ont su fictionner et imaginer, alors même que leur vie était terrible, assez misérable. Elles avaient peu de perspectives, la mort était au seuil de leur porte. Si elles ne se mariaient pas, elles restaient chez leur père qui était pasteur, ou elles devaient devenir gouvernantes au service d'une famille toute leur vie. Je pense que leur force a été justement de parier sur l'imagination et de voir ce que ça pouvait leur apporter pour juste survivre, en fait, et essayer de tenir jusqu'au lendemain, malgré les mauvaises nouvelles et malgré le futur qui ne s'ouvrait pas forcément à elles. Donc pour moi, ça a toujours été vraiment un exemple assez fort et très rare, en fait, de combat et de lutte contre un réel qui ne voulait pas forcément d'elles, mais contre lequel elles ont su proposer une solution miracle.
Les sœurs Brontë qui ont elles-mêmes, dites-vous, vécu une histoire à peine croyable, hein, quand elles vont devoir prouver leur identité chez un éditeur. Hein, j'invite les lecteurs et les lectrices à découvrir ceci. Je voudrais aussi en arriver sur le point des écrivains, des auteurs, des autrices qualifiés de visionnaires. Il y a des Jules Verne, des Kafka, il y a la littérature d'anticipation, il y a Mary Shelley qui comprend le contexte, les conditions dans lesquelles elle a rédigé Frankenstein. Et puis je peux prendre encore comme exemple Orwell, hein, qui va jusqu'à imaginer dans le roman 1984 la novlangue, et c'est loin d'être la seule chose qu'il imagine. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'imagination et la créativité par rapport à ces visionnaires?
Ah bah oui, il y a un rapport, je pense, évident. C'est vrai que c'est une idée assez folle de penser que les écrivains peuvent anticiper nos vies. Quand on y réfléchit, on se dit, bon, d'accord, mais peut-être que c'est du hasard, c'est une coïncidence. Vous voyez, on peut se trouver des raisons. Mais quand on regarde de plus près certains auteurs, notamment, prenons Mary Shelley, parce que vous l'avez évoqué. Mary Shelley, elle écrit au tout début du 19e siècle. Frankenstein, donc ce roman extraordinaire, très visionnaire, c'est son premier roman qu'elle écrit. À l'époque, elle est mariée à Percy Shelley. Ils sont dans les Alpes suisses chez leur ami Lord Byron. Ils n'ont rien à faire, il y a une tempête dehors. Ils se racontent des histoires, ils lisent des histoires de fantômes et ils se disent, tiens, si on écrivait chacun une histoire de fantôme. Et elle se met à écrire, à inventer cette histoire extraordinaire qui effectivement anticipe beaucoup ce qu'aujourd'hui on appelle les dangers de la transgression sur le vivant, si vous voulez. Et ce livre a quand même plus de 200 ans. Et c'est l'une des premières, on oublie que la science-fiction, avant tous les écrivains hommes du XXe siècle qui ont construit ce genre littéraire, il y a eu Mary Shelley, en fait, au début du XIXe siècle, qui a ouvert la voie à effectivement un genre littéraire extrêmement prolifique et qui nous aide aujourd'hui, je pense, à décrypter non seulement notre présent, mais aussi notre futur. Et ça, moi, ça me fascine. Alors, Orwell, vous l'évoquiez aussi, 84, on a largement dépassé l'univers de 1984, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que Orwell, c'est assez fascinant aujourd'hui de le relire. Faites l'expérience, relisez n'importe quelle page de 1984, vous verrez que c'est exactement la société dans laquelle nous vivons. Et ça, c'est quelque chose que je ne m'explique pas. Ou en tout cas, si on essaie d'analyser la manière dont ils ont essayé de travailler, alors Mary Shelley l'explique un peu dans sa préface, elle explique qu'il faut une grande attention aux choses du réel, aux choses qui nous environnent. Ça aussi, c'est assez contre-intuitif, c'est que l'imagination, elle vient pas de nulle part. L'imagination, et ça c'est Mary Shelley qui le dit extrêmement bien, ça vient toujours de quelque chose qui est autour de nous, d'une parole entendue, d'un objet, de quelque chose qui nous passe sous les yeux. Il suffit de le saisir et de parier sur lui, d'essayer de le prolonger, de voir quelle histoire nouvelle on peut raconter autour de lui.
Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, Laura El-Makli.
Merci, Jérôme. Merci
Je rappelle
beaucoup.
Évidemment votre livre Petit éloge de l'imagination aux éditions Les Pérégrines, hein, qui est aussi en fait une déclaration d'amour à la littérature, on l'a bien compris. Excellente journée à vous.
Merci, vous aussi.
Et merci également à Alexandre Lemire qui a assuré le duplex depuis Paris, José Moreno pour la réalisation de cette émission. Et puis nous, on revient demain, dès 11h dans Tribu, on parlera de comment penser le monde en temps de crise. Alors bonne écoute des programmes de RTS Première. Place au décodeur, bonne journée.
Tribu, Jérôme Timmerman. Envie de plonger dans les coulisses de l'info? Le samedi 7 juin, la Gürtelen de Bienne devient le cœur battant du tout premier festival de journalisme en Suisse romande, le Prestival. Journalistes, correspondants à l'étranger, podcasteurs, rencontrez celles et ceux qui font l'actualité. Toutes les informations sur prestival.ch. Vous rêvez de vous glisser dans la peau d'une ou d'un journaliste ? Grâce à l'atelier interview pour changer le regard sur le handicap, organisé sur place par la RTS, c'est possible. Détails et inscriptions sur avecvous.rts.ch.
Mille millions de mille sabords. Bienvenue dans les décodeurs en cette semaine du 2 juin. Le décor est cosy, il est un petit peu vintage, il sent bon l'Italie. C'est parce que nous sommes à l'Osteria La Bottega, rue de la préfecture 7 à Delémont. Avant toute chose, un grand merci à l'équipe de La Bottega pour l'accueil plein de bonne humeur et qui a bon goût aussi, ça a déjà commencé. Ouais. Sebastiano, Kylian, je vous vois au fond de la salle. Merci beaucoup, on vous recommande vivement ce lieu chaleureux, on va le faire toute la semaine. Alors pourquoi Delémont cette semaine ? Eh bien parce que dans quelques jours, du 13 au 15 juin, aura lieu la 11e édition d'une institution de la bande dessinée, Delémont BD. Ça va être splendide, il y aura une vingtaine d'expositions à découvrir, en plus des quelques 50 autrices et auteurs qui seront sur place, dont l'invité d'honneur Aude Picot. L'année passée, 17 000 personnes étaient passées par Delémont BD, record absolu de l'événement. Certains diront coïncidence, certains diront que l'année passée, c'était la première édition avec un nouveau directeur artistique à sa tête. Il a bien sûr été grandement aidé, et il vous le dira sûrement, par un comité comptant une quinzaine de personnes, ainsi que par presque 200 bénévoles. C'est une histoire d'équipe quand même, le Delémont BD. Mais il bosse dur, et il a apporté tout son enthousiasme à cette manifestation. Notre invité est le directeur artistique donc de Delémont BD. Merci de l'accueillir comme il se doit, Monsieur Cédric Humer. Pour jouer avec un tel mordu de BD, il fallait lui amener au moins les Dalton. Okay. Quatre bandits de l'humour et cette semaine, nous avons Nathalie Devantaire.
Bonjour.
Nous avons Bruno Coppens.
Bonjour.
Mais également Eric Constantin. Et la moustache de Daniel Rosis.
Bonjour.
Bonjour.
Et c'est qui Averell? Averell Dalton.
J'ai précisément pas précisé qui serait Joe Averell.
C'est qui rentre en plan?
Et Emma Dalton, Nathalie.
Rentre en plan, c'est probablement moi cette semaine. Oh. Je ne fais que vous accompagner. Voilà. Comment va Cédric Humer et comment va Delémont BD à 11 jours de l'ouverture?
Delémont BD va bien et je crois que moi, je vais bien aussi. Je crois que tout fonctionne bien. Je crois que tout est sur les rails. Il y a encore pas mal de travail, mais les premières expositions sont en train d'être posées aujourd'hui. Donc les gens qui se promènent dans Delémont peuvent déjà découvrir les expositions.
C'est marrant, vous avez un accent. Vous seriez pas jurassien?
Un tout petit peu
et à peu près de partout dans le canton. On va en parler avec lui. Parmi la cinquantaine d'autrices et d'auteurs qui seront là, Cédric, qui sait qu'on peut, on va en reparler évidemment de la programmation dans le détail, mais qui sait qu'on a envie de teaser comme ça au vol pour se faire un petit peu mousser?
Disons, d'entrée, je pense que Aude Picot, l'invité d'honneur, ça me paraît presque évident.
Ouais.
Et puis après, que ce soit pour la jeunesse ou d'autres, je pense à Cathy Bohr notamment, il y a Violette Weiss, Glenn Chaperon, sont des auteurs que je me réjouis de recevoir à Delémont.
Les auteurs, les autrices et le programme des expositions, tout ça, on va en parler évidemment durant la semaine. Entre deux gags, on a hâte d'y être à cette 11e édition de Delémont BD. En attendant, on va décoder. D'ailleurs, c'est l'heure de commencer à mettre un peu de texte dans ces bulles, dis donc.
Qui écrit bien,
formidable.
C'est un GPT, ça aussi.
Les IA et la BD, vrai sujet. Ouais. Qu'ont en commun le carnaval de Bâle, la fête des vignerons et l'art de la construction en pierre sèche? Éric Constantin.
Le carnaval de Bâle, la fête des vignerons, l'art de la construction en pierre sèche. Eh bien, Fantin,
Ces trois événements ont fusionné, ont fusionné, figurez-vous, pour devenir l'Eurovision. Enfin, un exemple vibrant est lors de cette édition, le chanteur représentant la Pologne, Piotr Tournowicz, plus connu sous le nom de Papa Brikolic, était déguisé en cèpe de vigne, accompagné d'une gougun sur un chariot en pierre sèche. Voilà, il a fini troisième, derrière le candidat ukrainien Volodymyr, qui chantait une chanson sur les discussions russo-américaines à propos de la guerre dans son pays. Une reprise de Céline Dion, « Ne parlez pas sans moi ».
C'est bien ça.
Ah, oui,
merci Eric.
« Ne parlez pas sans moi ».
Voilà, petit appel pour les producteurs, si vous voulez mettre cette chanson la prochaine fois. La semaine prochaine, on la teste volontiers. Daniel Rosis.
Alors, les murs en pierre sèche, c'est un... Bon, il y a des entreprises qui font ça, mais ils font travailler des civilistes chez nous en Valais. J'ai des gars, des amateurs du service civil. Le carnaval de Bâle, c'est une pratique sociale, rituelle et festive. La fête des vignerons, c'est une tentative de faire croire qu'un énorme spectacle peut être une pratique sociale, rituelle et festive. Le rapport entre ces trois choses, c'est qu'ils sont au patrimoine immatériel de l'UNESCO, comme tous les trucs où des amateurs sont exploités par des professionnels, ou l'inverse.
Ou l'inverse. Et hop là.
Voilà, ça c'est placé, ça commence fort.
Ça commence fort.
Vous êtes vraiment le trublion du passer, le paysage audiovisuel suisse roman.
C'est Joe Dalton. C'est Joe Dalton.
Ça dénonce, ça balance.
Et Bruno Coppens, alors?
Écoutez, comme je suis parti avant-hier de Bruxelles pour arriver à Delémont ce midi, j'ai fait deux définitions, une vraie et une fausse.
D'accord.
Alors, je vous laisse deviner laquelle. Le point commun, ce sont les quatre chiffres de naissance de ces trois traditions. 1, 3, 6 et 7. Le carnaval de Bâle remonte à 1637. La fête des vignerons remonte en 1763. Et la première construction en pierre sèche, 1367. Voilà. Alors, l'autre définition. La construction en pierre sèche, sans mortier ni ciment, crée un lieu de vie appelé un biotope. Les vignerons, ils font du vin biotope. Et si t'es bénévole au carnaval de Bâle, c'est un hobitope. Hobitope, biotope, top ton bio. Voilà, j'ai pris le train pendant 24 heures. Hein. Ça explique un peu ma définition.
Il est au bout du phare. Il a atteint le terminus de la gare. Nathalie Devantet.
Eh bien, c'est qu'en fait, ces événements ont tous été retransmis en direct sur la RTS, avec notamment un record de téléspectateurs pour la dernière fête des vignerons. Mmh. Par contre, pour la dernière démonstration de construction en pierre sèche par le célèbre artisan Philippe Gravenstein, là, il n'y a eu que deux téléspectateurs.
Ouais. Coup dur.
Un insomniaque et la maman de Philippe Gravenstein.
On la salue.
On la salue.
On la salue. Alors, je résume pour Cédric Humer. Qu'ont en commun le carnaval de Bâle, la fête des vignerons et l'art de la construction en pierre sèche, selon Eric Constantin? L'Eurovision, c'est le point commun. J'ai bien aimé ça. Elle nous a marqué, hein, ça, il n'y a pas si longtemps, on est encore marqué. Pour Daniel, il s'agit du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ces trois choses, finalement, seraient au patrimoine immatériel de l'UNESCO, selon lui. Bruno nous parle d'un hasard de date, plutôt, ou alors d'une histoire de biotope, vous choisissez.
Voilà.
Quant à Nathalie, elle nous parle du fait que c'est retransmis en direct sur la RTS. Notamment la construction en pierre sèche qui
surtout,
est retransmise en direct.
Commentée par Jean-Marc Richard.
Entre 1h et 2h du matin, c'est vraiment...
Vous mettez Jean-Marc Richard partout, ça devient intéressant. C'est ça
oui, bien sûr.
Oui, c'est ça qui est fort avec lui. Qu'est-ce qu'on en dit, Cédric? Je rappelle, pour la première fois de la semaine, vous avez droit à deux jokers. Hein, si jamais le public peut vous aider, un peu comme à Qui veut gagner des millions, sauf qu'il n'y a pas l'appel à un ami, là, c'est juste le cri au public. Et ils peuvent vous donner, parce qu'ils votent, donc ils vous donnent la réponse. Vous avez le choix pour la semaine, deux jokers. On va peut-être pas le griller tout de suite.
On va pas le griller tout de suite, ouais. Non. Je pense à Daniel Rosis pour cette première...
Mais quel talent!
Il est dans son match! Il est dans son match! Très, très bien. Effectivement, le point commun entre le carnaval de Bâle, la fête des vignerons de Vevey et l'art de la construction en pierre sèche, c'est que tous les trois sont inscrits, au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc l'idée, c'est que les traditions ne se perdent pas, puissent être transmises. Les matériels étant encore plus fragiles, évidemment, ça peut être des traditions orales, mais aussi des pratiques sociales, etc. Il y a un comité d'évaluation, des dossiers de candidature qui peuvent être déposés. On a par exemple eu en 2023 la saison d'alpage qui est entrée dans la liste, la gestion du danger d'avalanche en 2018.
Hein? Mais non.
Ouais, ouais. Non, je veux...
Ouais, ouais. À l'UNESCO.
Ouais, ouais. Et j'imagine de Lémon BD 2026.
C'est une bonne idée.
C'est le projet.
C'est pas immatériel, ça, quand même.
Non, c'est... Ça dépend, certains vous diront c'est plus que sur des écrans maintenant.
Ah
la
oui, c'est ça, voilà. Voilà. Oui.
On peut encore réaliser. Les décodeurs mériteraient d'être au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Alors, vous êtes d'accord. Et un point de plus.
C'est vrai ça.
On va déposer notre candidature, je crois.
Très bien. Et si on peut avoir des pétitions qui tournent également tant qu'on y est, appuyez-nous. Merci beaucoup. On commence par Dolémon BD parce qu'on est sportif. On s'occupera des décodeurs plus tard. Et pour l'instant, un premier point pour notre invité. Wouh! Les décodeurs à Delémont avec Cédric Humer et cette deuxième question du jour. Qu'est-ce qui était obligatoire pour les gendarmes français de 1914 à 1933? Daniel Rosis.
Il était obligatoire pour eux d'avoir une relation à la population qui soit empreinte de courtoisie, ce qui requiert l'usage, le règlement disait, du vouvoiement. Après, à cause de trop de mauvaises liaisons, parce qu'il y a des gendarmes qui disaient « Vous vagissez de manière illégale !» Alors, on a passé au « vouvoiement ». Et ils ont pu dire « Vous agissez de façon illégale !»« Vous agissez de façon illégale !»
Compliqué la communication en ce temps-là. Éric Constantin.
Inspiré par les gendarmes valaisans des années 80, 1880 donc. Hein.
Oui, pardon. Ça,
ouais, c'était autre chose, hein, les années 80. Hein. Pas de chômage, des vêtements bigarrés, les Walkman de 1880. Hein, c'était des musiciens itinérants venus d'Amérique. Alain Morisot, top 50, tout ça. Gendarmes valaisans donc qui avaient inventé la coupe mulet. Voilà. Oh. Eh oui, les années 80. On en est venu à appeler donc, à l'époque, les gendarmes français, les mulets, obligés de porter le mulet. Voilà, cette appellation étonnante explique probablement que les gendarmes couchés sont appelés ainsi depuis des dodanes.
Oh, il est fort. Et on est que lundi.
Ah ouais, 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 joli.
Qu'est-ce qui était obligatoire pour les gendarmes français de 1914 à 1933, Bruno Coppens?
Le port de la moustache. Le gendarme français arborait une moustache, attention, taillée en brosse et pas en croc, comme celle que portait Salvador Dali. L'argument des chefs de police était qu'un policier doit être craint par tout le monde. Or, un homme sans moustache est un homme qui se rase, puisque les poils poussent naturellement. Se raser, c'est arracher le mal à la racine, et quand sonne le glabre, l'homme, le vrai, disparaît. Donc tout homme qui s'épile s'efface. Francis Cabrel, lui, se rasa la moustache en l'an 2000. Il avait marre qu'on l'appelait le mousquetaire. Et du coup, en 2000, Cabrel prit le blaireau et Francis la lame. Et ce troubadour de l'amour joua au jeu de la mousse et du rasoir. Ta-ta-ta.
Il m'avait manqué, Bruno.
Nathalie... En fait, ça me va bien, les longs voyages.
Ouais, ouais, bah vous avez le temps d'écrire plein de vite, c'est super. Continuez seulement. Nathalie Devantet.
Eh bien non, en fait, il était obligatoire de commencer la journée par boire un grand verre de vin. Eh oui, c'était la première chose qu'on faisait. Alors, aujourd'hui, on préconise plutôt aux gendarmes de commencer la journée par faire quelques contrôles d'alcoolémie sur la route. Sauf dans le Jura. Il n'y a jamais de contrôle, mais les temps changent. Hein, ouais. Seulement, à l'époque, le vin, était une boisson considérée comme de l'eau, mais encore en mieux, parce qu'on prêtait au vin des bienfaits sur la santé et le mental. Hein, et ouais, on disait que le vin, ça rend brave. On lui accordait des propriétés anti-inflammatoires. On disait que ça prévenait les maladies cardiovasculaires. On disait même que c'était bon pour le foie. Ouais. Ah, j'aurais aimé vivre à cette époque. Ouais. On préconisait même d'en donner aux enfants et aux femmes qui venaient d'accoucher. Ouais. Ah bah, ça, je peux vous dire, j'aurais bien préféré. Moi, un verre de gamaret plutôt qu'une tisane de fenouil, ça aurait été quand même plus sympa, mais je crois que ce sera un autre sujet.
Ouais. Qu'on se réjouit que vous débloquiez. Ah, j'ai hâte. Alors, on résume. Qu'est-ce qui était obligatoire pour les gendarmes français de 1914 à 1933, mon cher Cédric Humer? Était-ce la relation courtoise avec la population, donc le fait de les vouvoyer, nous disait Daniel? Était-ce la coupe mulet, disait Eric, ou le port de la moustache, selon Bruno? Nathalie nous disait qu'il s'agissait simplement de boire un grand verre de vin pour bien entrer dans la journée. Qu'en dit-on? Il regarde un peu le public.
J'aurais bien voulu être d'accord avec Nathalie,
mais les femmes n'ont pas toujours raison.
Exactement. Mais je pencherais plutôt pour Bruno avec la moustache.
Et vous avez bien raison. Vous avez bien raison. C'est effectivement le port de la moustache qui était obligatoire pour les gendarmes français de 1914 à 1933 et presque tout ce que disait Bruno était vrai, c'est-à-dire que c'était pas n'importe quelle moustache, il fallait les avoir taillées en brosse et non pas relevées. Il donnait l'exemple de Dali. C'était pas comme ça qu'il les fallait, on voulait de la jolie brosse. D'ailleurs, quel gendarme, on va tester un peu vos connaissances BD, quel gendarme de... Vous avez pas le droit de répondre. Cédric. Quel gendarme de bande dessinée portait la moustache?
Dupont.
Il y avait Dupont, il y en a un
agent 212.
Oui, monsieur.
Ah ouais.
C'est à lui que je pensais, mais vous avez raison, Dupont et
Adolf
Dupont.
Hitler, en 33.
Alors, est-ce que c'était un gendarme? Pas sûr. On va vérifier. On sait que les infos sont pas toujours fact-checkées ici. Voilà, l'agent 212, ouais. Créé en Belgique par Daniel Cox et Raoul Cauvin en 75. Incontournable dans le journal Spirou, notamment. Ouais. Vous lisiez ça? Vous aviez lu l'agent 212? Qu'est-ce que vous n'avez pas lu, finalement, Cédric?
J'ai beaucoup lu l'agent 212, ouais. On l'a souvent reçu au festival Trame la Bulle où j'étais avant de donner mon BD. C'était un habitué, il venait pratiquement chaque année au festival.
L'agent 212 ou les...
Daniel Cox.
J'allais dire, il y avait souvent les flics. D'accord. Très bien, Daniel Cox.
Des agents 212, on en a dans chaque ville, hein, je crois. Des vrais, ouais.
Ouais, les vrais, ouais, les énergumènes, quoi. Ouais, avec la belle moustache et tout. Ah, c'est nos préférés. Souvent, on peut dialoguer avec eux. C'est ça qui est sympa. Et on est à quoi? On est à 2 points sur 2 possibles pour Cédric Humer.
Bravo.
Les décodeurs sur RTS Première, nous sommes à Delémont avec Cédric Humer, directeur artistique de Delémont BD. Je sais que notre invité apprécie les nouveaux coups de cœur musicaux. Eh bien, on va lui en proposer une tout de suite. Il s'agit d'Elena Copsi, artiste néo-pop montant de la scène musicale française et notre programmatrice musicale, Nadia Mythique. Elle est futée puisqu'elle a lu le programme sur delémontbd.ch et elle a choisi le titre d'Elena Copsi qui s'appelle « Moi-je ». Moi-je, c'est aussi le titre de la série d'Aude Picot, l'autrice à l'honneur à Delémont BD cette année. Elle a sorti Moi-je, puis Moi-je, etc. Et maintenant, Moi-je quarantaine, c'est sorti chez Dargaud. Cédric Humer, un petit mot. Aude Picot, c'est un trait fin, c'est un regard fin aussi. Comment le choix de Grande Trissou s'est porté sur elle? Grande Trissou qui est donc l'invité d'honneur chez vous.
Alors disons, ça c'est, je veux pas dire que ça s'est fait naturellement, mais effectivement ça s'est fait son trait fin, sa finesse de trait, mais sa finesse d'esprit aussi dans son propos, et puis la douceur de son dessin, la douceur de ses couleurs qu'elle met aussi. Donc elle aime bien dénoncer un petit peu les travers de nos vies, mais toujours avec empathie, et puis je pense que ça va faire une belle Trissou pour cette édition.
Ouais, on a hâte de découvrir encore mieux Aude Picot à Delémont à la mi-juin. En attendant, on écoute le Moi-je version musique. C'est ce titre d'Elena Copsi.
De quoi parle-t-on si ce n'est que de nous? Faut y mettre le temps. Je mangeais un siphon. Resserre-moi en rouge que je garde le fil sur un ton farouche. Rester bien habile si c'est par des rimes que l'on tient la trame. Si c'est par le drame que l'on sent, que l'on rame. Si c'est par des rimes que l'on tient la trame. Si c'est par le drame. Moi je, moi je, moi je, moi je, moi je sert à rien. Moi je, moi je, moi je. Ne sert à rien. Et si le bon temps sillonne sur la peau, que les belles années s'écument entre les doigts, je sais qu'à la fin il ne s'agit que d'un pêle-mêle de je, de toi, de moi. Et ce que je laisse, ce temps, je me lasse de 3 choses en laisse qui nous suivent, hélas. Je moi j'ai en loin de tout ça, rien de tout ça n'a de sens. Moi je, moi je, moi je, moi je, moi je sert à rien. Moi je, moi je, moi je, moi je, moi je ne sert à rien. Et si c'est par des rimes que l'on tient la trame, si c'est par le drame que l'on sent, que l'on rame, si c'est par des rimes que l'on tient la trame, si c'est par le drame. Moi je, moi je, moi je, moi je, moi je
Un plaisir pour moi de vous présenter pour la première fois cette semaine Olivier Magarotto qui est au piano. Ça veut dire qu'il y a une chanson qui arrive. Les décodeurs ont envie de vous aimer, cher public et chers auditeuristes. Je t'aime de Lara Fabian. Il y a donc un vrai couplet parmi tous ces couplets. Et c'est à vous, Cédric, de trouver lequel sera le bon. On écoute. Je crois que c'est Bruno Coppens qui va commencer. Ils ont changé. Éric Constantin, excusez-moi, c'est à vous.
D'accord, il existait d'autres manières de te quitter que de le dire à ta mère qui devait te le communiquer. Mais j'aime beaucoup ta mère, je l'ai toujours préférée. Tu vas pas nous gâcher la Saint-Martin en pleurant dans ton pâté. D'accord, la petite fille, au moins souvent te réclamer, presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots, de rêves, je vais crier. Je t'aime. Une star de cinéma, je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas, tu vois, je t'aime comme ça.
Daniel Rosis.
Bien sûr, j'aurais pas dû laisser mon agenda ouvert, mais si t'avais pas lu, t'aurais pas le cœur à l'envers. Tu n'aurais pas connu tout ce que tu as découvert. Que j'enfile à mes pieds nus Albert Levers.
Nathalie.
D'accord, je vais répéter. Ça fait 4 fois que je le fais. Je ne vais pas m'énerver, je respire, je vais me calmer. Je vais te prendre rendez-vous, les sonatones, c'est très discret. Fais-toi appareiller, je peux plus crier.
Tout le monde!
Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat. Je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça.
Oui, comme ça. Comme ça.
Magnifique. On a vibré, mais est-ce qu'on a décodé aussi, mon cher Cédric Humer, qui avait le vrai couplet ?
Je dirais Bruno.
Oui, monsieur ! Je t'aime.
Moi aussi, Fantin.
Comment t'as su que je peux parler ?
Ouais, mais je vois ça depuis le début de l'émission. Il y a des trucs qui...
Il y a des regards, il y a des gestes. Ouais.
Vous aimeriez qu'on vous laisse ou...
Oui.
Je me rends compte que c'est gênant, excusez-moi.
Pardon.
Cédric Humer... C'est quoi, on dit je t'aime, c'est quoi votre langage de l'amour à vous? Vous savez, on parle parfois des 5 langages de l'amour, les compliments, les cadeaux, ou alors le côté tactile, ou rendre des services, ou passer des moments de qualité. Vous, vous l'exprimez comment?
Je sais pas comment on exprime.
Tout de suite,
le lundi,
je veux créer du lien, c'est donc. Voilà, créons du lien.
Non, l'amour, c'est compliqué à expliquer. C'est des sentiments qui arrivent, c'est des moments de,
peut-être de passion, d'envie, de, ça peut être des balades à deux, en famille, ça peut être un bon moment, un bon restaurant, ça peut être
à la Bottega,
à la Bottega par exemple, ou passer un bon moment dans un, voilà, dans un festival, dans un endroit, une balade au bord de la mer, à la montagne ou autre, au bord d'une rivière, au bord du Doubs ou autre, dans le,
au bord
dans
d'un
Jura.
Précipice,
au bord d'un précipice,
et revenir seul.
Oui. Non, bah voilà, vous avez très bien répondu. Il y a des belles images. Vous avez placé festival quand même, hein, parce que vous oubliez pas de faire un peu de pub. Bien joué, ouais, bien joué. Il a un petit sourire en coin. Le langage que vous aimez recevoir de l'amour, c'est vous faire offrir des BD, c'est quoi?
Ah, c'est vrai que j'aime bien me faire offrir des BD. Là, c'est vrai, mais c'est très difficile, en fait. Que ça soit autant mes filles où elles me disent toujours mais on sait pas parce que tu les as toutes, puis je leur dis mais c'est pas vrai, c'est pas possible.
il y en a tellement,
il y a plus de 5000 BD qui sont publiés en français chaque année, donc je leur dis c'est absolument pas possible.
Donc elles ont qu'à faire une recherche, quoi, en
donc
gros.
Il suffit de faire une recherche et puis on y arrive.
Très bien, merci beaucoup. En tout cas, on est à 3 points sur 3 possibles. Oh, attention, là, attention, là, attention, on commence à se méfier un petit peu. Bravo Cédric. On va essayer de rajouter un point à notre invité avec un petit dico bonus.
Ah.
Alors, on va commencer facile. Notre invité, Cédric Humer, est originaire des Genevais, on dit comme ça ?
C'est
Genevais, charmante commune des Franches-Montagnes, soit 30 minutes d'ici en voiture à peu près. Cette commune, depuis les années 1900, elle a perdu environ 200 âmes. Ma question, c'est pourquoi ?
Parce qu'ils sont morts.
Depuis les années 1900, bien vu.
Bah oui.
La frontière de la commune a reculé.
Et c'est une bonne réponse pour Nathalie Deventer.
Ce serait incroyable.
La frontière de la commune a reculé ou s'est déplacée.
Ah, ça aurait été une bonne explication, mais ce n'est pas celle-là.
Ils ont fermé quelque chose.
Non.
Il y a eu un éboulement, des maisons enfouies dessous.
Putain.
Mais d'où tu sors toute cette imagination?
Franchement, c'est pas mal du tout, mais non. C'est plausible, mais non.
Oui, mais tout est plausible.
Ouais. Vous avez le droit de répondre aussi, si vous avez...
Oui, il faut essayer de répondre. Oui. Non, c'est pour faire le point, il faut répondre.
Ils ont fait des terres agricoles.
C'est un phénomène de population assez normal, en fait.
L'exode rural, mais...
Non.
Pas de décès, pas d'exode rural.
Ils
donc les gens sont
d'enfants.
Partis quand même.
Ils sont stériles.
Alors non, par contre, il y a une piste avec les naissances.
Il y a moins de naissances.
Il n'y a plus de naissances.
Mais il y a moins d'enfants, mais bien sûr. Bien sûr, mais oui, on peut leur donner une fois.
C'était facile.
En attendant, j'ai dû vous aider quand même. Mais effectivement, simplement, les familles sont moins grandes. En fait, il y a moins d'enfants. En fait, c'est paradoxal parce qu'il y a une cinquantaine de maisons qui ont été construites au Genevais depuis le début du 20e, mais il y a beaucoup moins de personnes par maison. À l'époque, ça allait jusqu'à 10 sous chaque toit.
Okay.
Et aujourd'hui, on est sur quelque chose de plus raisonnable, n'est-ce pas?
Ah ouais.
Question subsidiaire, comme ça, il y a combien d'habitants et d'habitantes actuellement au Genevais?
728.
Il n'est pas loin.
700.
Non, c'était 710, ça c'était en 1900.
Ouais, maintenant il y a 500.
Et aujourd'hui, ouais, on est à 510. 517 pour être.
Ouais, bon, d'accord, j'ai pas compté.
Non, mais pas loin, non, mais ça va.
Mais entre le moment de l'enregistrement et le moment de la diffusion,
voilà.
Il peut y avoir
ça peut augmenter très très vite.
Ah, ou descendre.
200 personnes en une semaine, on y croit. Quel souvenir vous gardez, Cédric Humer, des Genevais?
Donc, alors j'ai pas vécu au Genevais.
C'est juste la carte d'identité.
C'est la carte.
Personne.
Du coup, c'est vos parents ou c'est vos grands-parents? Parce que moi aussi j'ai eu un truc qui a rien à voir dans ma carte d'identité. Ville Saint-Gall, j'ai jamais su qui a vécu là-bas. Vous, c'est aussi un mystère comme ça, vous savez.
Alors, non, c'est pas du tout un mystère, puisque le Jura n'est pas très grand. Donc, moi, j'habitais Tavannes, qui est à quelques kilomètres des Genevais, mais c'est là que j'ai appris à faire du ski. C'est là que, voilà, il y a un téléski.
Ah, trop bien.
Donc, j'ai encore des bons souvenirs de, voilà, c'est un peu ces souvenirs-là de ski au Genevais.
Les Genevais, c'est un peu les Bunionnais. Du Jura, quoi.
C'est un peu les Bunionnais des Franches-Montagnes, oui.
Ouais, c'est ça. On va en famille pour tester le ski. Trop bien. Bon, on apprend à mieux connaître notre merveilleux Jura, ainsi que notre invité, qui repart plus riche d'un point grâce à ce dico bonus.
Bravo.
Et bim. Les décodeurs sont à Delémont cette semaine. On célèbre la bande dessinée à l'approche de Delémont BD Festival mythique ici. Mais là, on prend une pause au milieu de la fiction pour entendre quelques véritables news. À tout de suite après le Flash Info. We'll be right back.
Blur avec Abacus et son logiciel de gestion d'entreprise, abacus.ch.
RTS Première, il est midi.